Bonjour et bienvenue à Regards Croisés de ce mardi 2 février 2021, sous la neige. Bonjour Arlette.
Et avec Fulgence Blas, oui. Et Arlette Farah. Il en a oublié même de se présenter tellement la neige lui a fait peur.
Voilà, oh, c'est vrai. je suis pas venu en voiture comme je l'ai dit.
Alors Fulgence, aujourd'hui on va parler en première demi-heure avec Marie-Julie Schembert. Qui est directrice générale des organismes René Verrier et présidente du conseil d'administration de l'Alliance des maisons de soins palliatifs du Québec. Donc on va parler soins palliatifs et en deuxième demi-heure.
En deuxième demi-heure, comme je l'avais annoncé hier, pour ceux qui nous ont écoutés, on va recevoir le président de la table ronde du mois de l'histoire des Noirs qui a commencé hier. Et puis il est porte-parole cette année lui-même, en même temps il est président de la table noire. Il s'agit bel et bien de Michael Farkas qui sera avec nous à 17h30.
Très bien, alors on l'attend impatiemment. En attendant, on part en musique avec Pierre Nolly. Pierre Nolly qui nous chante Ta robe avec des fleurs.
Quand tu mets ta robe avec des fleurs,
tu mets ton habit avec des rires.
On marche nu-pieds dans le bonheur, sans rien dire. On n'a plus besoin de se parler.
Il y a plein de je t'aime entre nos yeux.
Et la vie s'amuse à nous souffler
qu'on est heureux.
Quand tu te parfumes avec mes rires,
tu mets mon
s'envole dans l'air, on chavire au clair de lune. On n'a plus besoin de voyager,
y a tout l'infini qui nous unit.
Et les oiseaux viennent déjeuner
dans notre nid.
Quand tu mets ta robe avec des fleurs,
tu mets ton habit avec des rires.
Et la vie s'amuse à nous souffler qu'on est heureux. Tu mets ta robe avec des pleurs,
tu mets ton manteau couleur de brume.
On marche nu-pieds dans la noirceur,
y a plus de lune.
On n'a plus rien à se raconter,
y'a plein de silence entre nos yeux.
Et les mots ne savent plus danser,
on devient bien vieux.
Mais tu te maquilles avec le soleil,
tu te bafouilles avec les nuages.
Y a plein de printemps qui nous réveillent,
on n'a plus d'âge.
On n'a plus besoin de se parler, y a plein de feux follets sur nos joues qui jouent à nous faire valser avec l'amour. On n'a plus besoin de se parler, y a plein de je t'aime entre nos yeux. Et la vie s'amuse à nous souffler qu'on est heureux. Et la vie s'amuse à nous souffler qu'on est heureux.
Alors, Marie-Julie Schembert, bonjour.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue avec nous. Donc, je le répète, vous êtes directrice générale des organismes René Verrier et présidente du conseil d'administration de l'Alliance des maisons de soins palliatifs du Québec.
Oui, exactement.
Ce qui n'est pas rien. Alors, avant qu'on parle des organismes René Verrier, j'ai d'abord une première question que j'appellerais une question de base. qu'est-ce que c'est les soins palliatifs? Parce que dans ce mot-là, ça fait peur à beaucoup de gens et ils n'ont pas conscience de tout ce qu'il y a derrière.
Donc, moi y compris, ça.
J'aimerais que vous nous en parliez.
Et quelle bonne question. Je suis ravie que vous la demandiez en commençant l'entrevue parce qu'en effet, les soins palliatifs font peur à la majorité des gens parce qu'on méconnaît ce que comprennent les soins palliatifs. Alors, tout d'abord, il faut savoir que quand le médecin ou les intervenants médicaux annoncent qu'on est rendu aux soins palliatifs, la majorité des gens pensent que ça y est, on va mourir demain matin. Il reste trois, quatre jours à vivre. Alors que, en fait, les soins palliatifs peuvent arriver beaucoup plus tôt dans le traitement de toute l'évolution d'une maladie qui est incurable. Peu importe quel type de maladie on peut avoir, à un moment donné, on vient tous à une étape de notre vie où on sera à l'étape des soins palliatifs. Les soins palliatifs s'occupent non seulement du confort physique, mais aussi énormément de tout ce qui traite l'aspect psychologique et spirituel d'une personne, ainsi que tout son entourage, ses proches aidants. Donc, les soins palliatifs, quand ils sont pris très tôt dans la maladie, ça permet notamment à la personne malade et à sa famille, à son conjoint, ses enfants, etc., de pouvoir comprendre l'évolution de chaque étape et penser à travers cette situation-là de façon beaucoup plus sereine. Parce que d'abord, le soin palliatif traite au niveau physique le confort physique. Donc, quand on arrête de souffrir parce qu'on a un bon soin palliatif qui est pris assez tôt avec notre médecin, avec des intervenants psychosociaux, des infirmières, etc., qui nous accompagnent à chaque étape de l'évolution de la maladie incurable, ben notre corps arrête de combattre la douleur, grosso modo. Notre corps est beaucoup plus outillé pour faire face à chacune des étapes qui s'en viennent, libérant ainsi tout l'aspect psychologique pour qu'on puisse enfin profiter de ce qui reste à vivre. C'est ça, les soins palliatifs.
Parce que, oui, allez-y, continuez.
Et les intervenants qui travaillent notamment dans les maisons de soins palliatifs, puis je peux vous en parler longtemps, on a des équipes interdisciplinaires, évidemment. On n'a pas juste un médecin qui va s'occuper de la bonne prescription et du bon dosage pour le type de douleur ou le type de maladie qui attaque le corps. On a aussi les infirmières qui vont suivre à tous les jours ou régulièrement l'évolution de ça pour, avec le médecin, en équipe, voir comment on peut traiter au maximum la douleur physique, et à côté, il y a tous les intervenants psychosociaux, psychothérapeutes, thérapeutes en relation d'aide, aide spirituelle, on peut avoir des massothérapeutes aussi, et il y a tous les soins qu'on appelle à côté, où là, souvent, dans une maison de soins palliatifs, on dit que nos chefs sont un des plus grands intervenants parce que souvent, dans les maisons de soins palliatifs, on garde notre monde énormément avec les petites dents sucrées. Et ça fait partie de la philosophie d'entourer une personne qui passe à travers les différentes étapes de sa fin de vie et pour que son entourage soit beaucoup plus en sécurité parce que son être cher est bien traité et pas dans la douleur et pas dans la souffrance.
C'est parce que vous faites aussi un suivi de deuil à la famille, des moments sur demande. Alors justement, en venant à ça, dans les organismes René Verrier, j'ai été très surprise d'apprendre qu'ils étaient gratuits. Et donc, ma question qui vient tout de suite derrière, mais comment êtes-vous financé? Quand on voit les photos, c'est super beau, c'est des beaux endroits. Pour avoir un certain nombre de chambres, combien il y a de maisons dans le Québec? Comment ça se passe?
Vous avez enfin, ça fait
trois questions en une.
Aller par ordre. La première, en fait, il y a 35 maisons de soins palliatifs au Québec.
D'accord.
Alors, chacun de nous, dans chacune de nos régions, on Google maisons de soins palliatifs dans notre région et on va trouver celle qui nous sert sur notre territoire. Toutes les maisons de soins palliatifs fonctionnent grosso modo de la même façon, c'est-à-dire que tous nos services, en effet, sont gratuits. C'est pour fou, tout ça. Le monde, tout le temps.
C'est merveilleux.
Quelques-unes sont réservées aux pathologies avec des gens atteints de cancer, mais c'est très peu. Là. Il y en a 2 ou 3 seulement. Toutes les autres sont vraiment pour toutes les pathologies, tout type de maladies. Et c'est gratuit à cause de 2 choses. La première, c'est que nous sommes toutes financées actuellement à peu près à 50% de notre budget d'opération par une subvention qui vient du ministère de la Santé.
D'accord.
L'autre 50% vient de la philanthropie. Alors là, on fait des spagotons, des tournois de golf, des soupers spaghettis, des levées de fonds, vin fromage, etc. Et chacune des maisons dans chacune des régions développe avec sa communauté, avec ses gens d'affaires, avec ses donateurs, différentes activités annuelles récurrentes pour aller chercher l'autre 50% de son budget. Je vous donne une maison en moyenne de 12 lits, à peu près. La moyenne du coût annuel des maisons de soins palliatifs au Québec, puis là, je vais vous parler par lit, OK? Parce que la plus petite maison a 4 lits et la plus grande maison en a 23.
D'accord.
Donc, la moyenne de nos maisons a à peu près 12 lits. Et ça coûte 187 000 par année par lit.
Oh!
OK? Alors, c'est ça. Ici, à René-Verrier, nous, on est à Drummondville. Notre maison de soins palliatifs a un budget d'à peu près 1,5, 1,6 millions par année et on a 10 lits. OK?
D'accord.
Et on peut, si on prend nos services connexes, parce qu'on fait des services à domicile aussi, et on va chez les gens qui sont en soins palliatifs et on accompagne même les gens qui souhaitent mourir à domicile, à ce moment-là, on monte dans la norme à 1,8 million à peu près par année. Alors, la 50% vient du ministère de la Santé, l'autre 50% on fait des activités levées de fonds. Et évidemment, tout ça, c'est fait en sorte que, encore une fois, le soin palliatif, et on travaille au niveau psychologique, quand on comprend qu'on peut avoir ce cadeau de la vie-là, puis c'est vraiment comme ça qu'on se le fait dire souvent, aller dans une maison de soins palliatifs, c'est le dernier cadeau de vie que je peux m'offrir à moi-même. Et en même temps que je peux offrir à ma famille qui m'accompagne, parce que ils sont soignés 24 heures sur 24. Ils ont des infirmières avec eux autres 24 heures sur 24, des médecins qui passent à tous les jours et des préposés aux bénéficiaires qui les lovent et qui les cajolent et des psychothérapeutes qui vont voir comment ils vont aujourd'hui parce que le deuil, le processus de deuil, à la fois pour la famille qui va perdre son être cher, mais d'abord et avant tout pour le patient lui-même.
Bien sûr.
Entrer dans la phase des soins palliatifs et entrer dans la phase de fin de vie que nous arriverons tous un jour.
Alors, j'ai aussi une autre... Ah, pardon, vous n'aviez pas fini,
oui,
excusez-moi.
La dernière fois, c'est que c'est petit à petit faire des deuils au quotidien pour le patient lui-même.
Bien sûr. Donc, mon autre question qui venait ensuite, d'abord, on va faire une petite pause musicale, si vous permettez, Marie-Julie, puis on se retrouve tout de suite après.
D'accord.
Donc, je voulais savoir, vous avez parlé du nombre de personnes qu'il y avait dans la maison que vous avez, sur laquelle vous travaillez, mais on parlera de leur temps maximum pour qu'ils viennent dans ces maisons-là. On en parle tout de suite après la chanson Ariane Moffat qui nous chante Les Apparences.
Ton corps en
Alors Marie-Julie, de nouveau avec nous. Ces personnes que vous recevez et qui vont partir, évidemment, donc qui partent dans les meilleures conditions possibles, entourées des leurs et entourées de toutes ces personnes qui s'occupent d'eux, ils viennent, ils ont, on va dire, le droit d'arriver dans ces maisons de soins palliatifs quand il leur reste combien de temps à peu près?
En moyenne, on accepte dans nos critères d'admission les gens qui ont une espérance de vie de moins de 2 mois. 2 à 3 mois. Il faut s'entendre qu'on n'a personne notre boule de cristal.
Bien sûr.
Et donc, de façon générale, lorsque le médecin ou l'infirmière du CLSC ou l'oncologue ou peu importe nous transfère un dossier, c'est parce que clairement, avec le patient et sa famille, ça a été discuté qu'il restait un pronostic de moins de 2 à 3 mois d'espérance de vie.
Alors, Marie-Julie Chemin, j'aimerais savoir, moi, comment on devient directrice générale des organismes René Verrier? Qu'est-ce qui attire au départ pour aller travailler là-dedans? Parce que, certes, vous nous l'avez expliqué d'une autre manière et je comprends tout l'amour qu'il y a derrière. Il n'empêche que j'aurais peur des soins palliatifs parce que ça voudrait dire que quelque part, je m'en vais. Je le conçois tout à fait. Mais comment, quel est cet amour, cette passion qui vous a poussé là?
Ma réponse va autant pour les intervenants qui travaillent au niveau des soins que pour les bénévoles. Hein. Les bénévoles sont majoritaires dans nos maisons de soins palliatifs. On a besoin d'eux partout.
Et merci à eux, d'ailleurs.
Absolument. Et au niveau de la gestion aussi, c'est une volonté de donner au suivant. C'est une volonté de s'impliquer à tous les jours en faisant quelque chose qui a une vraie signification. Et comme tous les intervenants de la santé depuis aujourd'hui, à ces temps-ci, depuis un an maintenant, Dieu sait comment on parle énormément des anges du système de la santé. Les anges qui sont dans le monde des soins palliatifs, dans les maisons de soins palliatifs, on est tous guidés par cette volonté-là de faire mieux et d'offrir une fin de vie digne et sereine à tout le monde, peu importe d'où il vient, oui, peu importe ses croyances, peu importe sa vie, peu importe son portefeuille, on a vraiment une motivation qui est liée, oui, à l'amour du prochain et à la volonté de faire mieux dans nos communautés, de faire en sorte que les gens de chez nous, dans chacune de nos régions, pour leur fin de vie, qu'ils puissent la vivre de façon extraordinaire. Parce que Il n'y a pas une fin de vie qui est pareille à une autre. À René Verrier, à Drummondville, on a environ 150 patients par année. On a accueilli jusqu'à maintenant pas loin de 800 patients depuis qu'on est ouvert. Il n'y en a pas une qui est pareille, là.
Et bien sûr, chaque être humain est unique, hein, donc il doit bien avoir aussi son unicité dans la façon de partir.
Et les rencontres que nous faisons à tous les jours changent nos vies.
Oui.
Avoir le privilège de se faire confier une fin de vie par ces personnes-là et par leurs familles qui nous font confiance, c'est un cadeau aussi pour nous parce qu'on ne vit plus jamais pareil après. On saisit vraiment l'importance de la parcelle de bonheur de chaque instant présent.
Alors maintenant, oui, pardon, allez-y.
Excusez, allez-y.
Non. C'est parce que quand vous me parliez de ça, oui, j'avais une question qui me venait, c'était aujourd'hui, spécialement aujourd'hui avec la pandémie, étant donné qu'on demande aux personnes qui arrivent, d'où que ce soit, de rester pendant 15 jours isolés, donc sur leur temps de 2 mois ou 3 mois qu'ils ont, ils perdent aussi 2 semaines à être isolés, en isolement.
Oui, en isolement, mais dans toutes les maisons de soins palliatifs, on a mis en place des mesures où, évidemment, il faut qu'on garde nos équipes en sécurité là, pour éviter le plus possible que le virus entre dans nos maisons.
Bien sûr.
Mais chaque patient a droit à ses visiteurs essentiels. Alors, par exemple, si moi, demain matin, je suis admise dans une maison de soins palliatifs, oui, je dois malheureusement faire, puis c'est le contexte qui le veut, un isolement de 14 jours où je vais devoir rester dans ma chambre, mais Chacun de mes enfants va pouvoir venir me voir à tous les jours.
D'accord.
Mon conjoint va pouvoir venir me voir à tous les jours. Mais les gens qui ne seront pas admis à l'intérieur de la maison de la maison de soins palliatifs, par exemple mes frères, ma sœur, mes cousins, mes cousines, bon, etc. Ces gens-là vont pouvoir venir me voir, mais à la fenêtre. Ils vont avoir accès à moi, mais pas à l'intérieur, malheureusement, depuis la COVID. Et ça, chère madame, laissez-moi vous dire que pour toutes les maisons de soins palliatifs et pour tous les intervenants en soins de santé, c'est complètement contre nature pour nous.
Ben
nous,
oui.
Là, on est habitués d'ouvrir nos portes et nos bras avec amour à tout le monde. Et j'ai déjà vu, moi, dans ma maison à Drummondville, là, une dame qui, à tous les jours, là, elle avait à peu près 5 personnes qui dormaient avec elle dans sa chambre parce que c'était une famille très soudée, puis personne ne voulait la laisser une seule seconde. Et ils sont restés comme ça pendant plusieurs jours avec nous et on les a accueillis et on les a accommodés du mieux qu'on a pu. Et c'est ça notre ADN.
Ben oui.
Alors, la COVID est venue vraiment tout chambouler.
Je comprends ça.
Mais la beauté de la chose, c'est qu'on est quand même toutes encore debout aujourd'hui.
Bravo à vous déjà pour ça.
Oui.
Et comme nous, il nous reste juste quelques minutes, vous savez que vous êtes passionnante. Hein? C'est vraiment un bonheur de vous entendre. Mais Fulgence a une question pour vous avant qu'on termine.
Avant
donc,
qu'on termine, oui.
Voilà.
Marie-Julie, comment est-ce que vous arrivez à décrocher vous-même avec tout ce que vous vivez tous les jours? Comment vous décrochez?
La nature, mon gros chien, on a un gros chien Mira qui vient travailler avec nous à la maison de Trotalatif, c'est moi sa gardienne. Alors là, je viens d'arriver à la maison, on s'est roulé dans la neige pendant 15 minutes. L'amour de mon chum, de mes enfants, c'est des livres, c'est la nature, le contact avec la nature, c'est sûr que c'est. Puis je suis pas la seule, on reconnecte toutes avec la nature.
Mmh.
Donc voilà.
Ben écoutez.
Et une petite coupe de vin, je dois bien vous avouer que actuellement j'ai ma petite coupe de vin rosé parce que ça me fait du bien.
Ben je comprends ça aussi. En tout cas, ça a été, c'est toujours très intéressant d'apprendre tout ça. Puis j'ai été assez stupéfaite. Enfin, en tout cas, on a bien aimé tous les deux tout ce que vous nous avez raconté jusqu'à aujourd'hui. Je ne savais pas. Voyez que vous alliez que ces maisons-là étaient gratuites et qu'on avait même dans l'aide à mourir pour ceux qui sont là et qui veulent en finir avec la vie et prendre le temps de dire au revoir. Donc
il y a 17 maisons de soins palliatifs qui offrent, qui donnent accès à l'aide médicale à mourir actuellement au Québec. Et
alors,
si vous voulez en savoir plus long, là, on a un site web qui s'appelle alliancemspq.com.
MSPQ.com.
Alliancemspq.com.
OK.
Voilà. Et vous avez toutes les maisons de soins palliatifs qui œuvrent au Québec. Il y en a 35. Soyez généreux avec chacune d'elles.
Oui.
Toutes parmi nous avons notre site web sur lequel vous pouvez donner des dons en ligne.
Alors,
et c'est ce qui nous permet de donner au suivant pour offrir une fin de vie digne et sereine à tout le monde.
Marie-Julie Schoenberg, merci beaucoup.
Merci pour toutes ces
infos. Et vous avez été passionnante
infos,
pour ça. Ça a été
merci
une belle entrevue.
Merci pour votre invitation. Oui, un bon moment. Merci
à vous.
Merci.
Au revoir et à bientôt.
Au revoir.
Alors...
Hello Kitty, bonjour, violente femme. Bonjour Grace Kelly, bonjour madame. Hello Superman, bonjour, solitaire. Bonjour tous les jours, tout à l'envers. dernier bonjour la graine.
D'entendre Rachid Taha et Gaëtan Roussel qui nous disaient bonjour, qui nous chantaient bonjour. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'émission, Fulgence.
Oui, bien sûr, bien évidemment, avec le président et porte-parole de cette 30e voilà, édition du mois de l'Histoire des Noirs. À tout à l'heure.
À tout de suite.
Vous écoutez Regards croisés avec Fulgence Blas et Arlette Farah.
C'était Ilham Jarabi. Voilà. On a notre invité déjà au téléphone. Un petit mot là rapidement. Atteindre le plateau de 30 ans, c'est une réalisation remarquable et je félicite tous les organismes et les individus passés et présents qui ont travaillé d'arrache-pied à la promotion et la préservation de notre histoire. Sans eux, rien de tout cela n'aurait été possible. Ça, c'est les mots du président et porte-parole en même temps de cette année, Michael Farkas. Bonjour, Michael.
Bonjour.
Wow. Bonjour, bien à vous. Merci de m'avoir en votre compagnie.
Oui.
C'est un plaisir.
On aurait aimé vous avoir ici avec nous. En studio, mais oui. Pandémie oblige, on a oublié de vous avoir au téléphone. C'est comme si vous étiez avec nous ici en studio.
Oui, ça sera pour une autre fois, mais c'est déjà un bon début.
Oui.
C'est déjà un bon début, c'est vrai.
Alors, comment on se sent à la deuxième journée de ce mois de l'histoire des Noirs avant que je ne vous demande?
C'est occupé. Je peux dire que on vient juste à peine de finir la présentation avec des lauréats, lauréates de cette année 2021.
Oui.
Avec les élus, il y avait la ministre, Mme Giraud. Il y avait la mairesse Valérie Plante était avec nous et plusieurs conseillers de ville étaient avec nous, dont Mme Cassie-Wong, responsable de la diversité. Alors, ce fut un moment agréable où chacun des lauréats et lauréates ont pu prendre quelques minutes pour parler un peu de leur parcours, puis de finalement témoigner de cet hommage qu'on leur fait. Alors,
les 12 lauréats.
C'était le fun, mais c'était comme on est là, on est
là. Avant de continuer, bon, pour ceux qui n'ont peut-être jamais fait attention durant chaque année, au cours du mois de février, la table ronde du mois de l'histoire des Noirs, c'est quoi? Quel est cet organisme, semble?
Oui. C'est l'organisme qui est un OSBL, un organisme à but non lucratif, qui a le mandat d'organiser les activités et la promotion des autres activités faites par les membres collègues, par les partenaires des communautés noires. Alors, on a naturellement, à l'heure du virtuel, on a un site www.moihistoiredesnoirs.com où tout le monde peut aller visiter. Il y a plus de 100 activités. Je pense que tous sont en ligne et que finalement, il y a quelque chose pour toutes les pointures. Alors, c'est notre devoir à nous, c'est notre mission de voir à ce qu'à chaque année, le mois de l'histoire des Noirs, on crée aussi des outils promotionnels comme le calendrier, les cartes postales, les affiches.
Les affiches, oui, elles sont magnifiques.
Elles sont très belles en série. Oui. Je pense que si vous en voulez, là, dites-moi là, parce que je pense que ça va partir vite.
Ça va très vite.
Oui, oui. Alors, j'adore.
Michael, est-ce que vous êtes un peu triste parce que ça se passe, parce que tout est virtuel cette année? C'est la première fois.
Mais moi, je dirais, je suis triste. Oui, merci de poser la question. Tout le monde fait comme on brave, on passe à travers la tempête de la pandémie.
Oui.
Comme si on est tous. Non, moi, j'ai même écrit à quelqu'un, what a pity. Quelle tristesse.
Oui.
Alors oui, moi je suis un gars d'événementiel. Moi je suis directeur de maison de jeunes.
Oui.
Je suis un gars qui organise des festivals l'été.
Oui.
Alors je suis un chanteur. Je peux pas chanter avec un masque d'en face. Ça tu peux être sûr de ça.
Oui.
Alors c'est sûr que moi, comme tout être humain, il est obligé de se ressaisir, repuiser en dedans de lui-même, d'aller chercher ce qu'il faut pour tenir le coup. Mais c'est pas quelque chose, et puis de pas, parce que c'est mentalement que tu veux pas que ça t'affecte trop, c'est ça qu'on se pose des questions, jusqu'à quel point cet impact du virus aura sur la jeunesse, sur plusieurs pans de notre société.
Oui.
Alors à ce moment-là, j'ai sorti un album au mois de novembre, je suis déjà en train d'en faire un autre parce qu'il est presque prêt.
Je le sais, c'est parce que je me suis dit on va t'inviter prochainement spécialement pour ta carrière musicale.
On aurait pu faire passer un morceau.
Il va venir spécialement pour sa carrière musicale.
Ben wow. Parce que d'habitude, on parle de tout, sauf parce que je ne me présente pas nécessairement sous ce chapeau ou sous avec cette étiquette, mais c'est ça, c'est sûr que moi, j'en ai profité pour écrire, pour peaufiner, surtout lors de la première. J'ai jamais arrêté de travailler, mais je ne tripe pas. Moi, je vais le dire en bon québécois, là, je trippe pas, là. Qu'il l'entende tout le monde. Non, il faut le dire. Ça veut pas
ben
dire
oui.
que. Il faut montrer une certaine résilience pour celui qui est plus faible, pour celui qui est plus vulnérable.
Oui.
Tu peux pas juste dire, tout voir pessimiste. Je comprends. Mais il faut le dire que non, j'ai hâte que les choses reviennent, qu'on se voit toutes. L'être humain est fait pour toucher.
Oui. Et qu'on s'embrasse. Aider, fait...
Oui, non, oui, oui. Oui.
Je comprends. Il y a une grosse crise sanitaire, là. On est tous dedans. Mais moi personnellement, j'ai hâte que ça revienne à être quelque chose de normal. Puis on espère, parce qu'on le sait pas, hein. On sait quand même, il y a beaucoup d'incertitudes à l'horizon. Avec plus, non, je croise mes doigts parce que je suis pas nécessairement très heureux de tout faire en ligne, ça. Malgré que bon, ça a ses bons côtés. En plein hiver, on tombe pas sur la glace, on n'a pas trop froid, tu comprends, on peut trouver toutes les bonnes excuses pour dire, mais reste que, justement, de sortir, d'aller au cinéma, d'aller dans un musée, d'aller dans une conférence en présentiel. Je vous entends, là, madame, vous allez dire.
Oui. Mais je disais le contact avec les autres, c'est ça.
Oui, qui...
C'est l'état d'âme de l'être humain.
C'est ouais. ça, on espère que ça va finir.
Mais j'entends pas de médecin.
Voilà, rapidement. Avant qu'on écoute notre pièce musicale, Michael, comment se sent le petit garçon de Mont-Saint-Hilaire qui...
Ouh là là. Je connais bien, toi, avec ton accent, là. J'aimerais bien te voir. J'ai l'impression que tu parles, on dirait que tu me connais.
Oui, le Exactement. Petit garçon de Mont-Saint-Hilaire qui, depuis 2009, est à la tête de la table ronde du mois de l'histoire des Noirs.
Oui, tout à fait.
Oui.
Ben, écoute...
Ce beau village entouré de pommiers.
Oui, mon Dieu. Mais toi, tu me... En fait, non, tu viens me chercher, là. Mais quoi, c'est mon enfance que tu décris, là.
Ben oui.
Et c'est formidable, quand même, parce qu'effectivement, il y avait pommiers avant le développement de l'immobilier, là. Mais reste qu'il y avait pommiers en avant et en arrière de chez nous. Il en reste encore, là. Mais la maison existe toujours. Et les parents viennent de... Ma mère nous a quitté l'été passé, mais c'est qu'il y a ma soeur quand même. Alors, j'y retourne. Le petit gars de Mont-Saint-Hilaire, il sent correct, il sent qu'il y a une meilleure grip, parce que j'ai découvert, tu vois, ça c'est par rapport à toutes mes racines d'adopter, si oui. je peux dire.
Mm-hmm.
Mais depuis un an, j'ai gravité beaucoup parce que je connais ma vraie famille biologique du côté de ma mère, et puis je peux te dire que c'est toute une histoire, là. C'est réellement comme je le ressentais, mais c'est réellement les descendants des Noirs loyalistes. C'est toute cette histoire.
On va revenir là-dessus, puis je vais te poser une question rapide. Après la petite pause musicale.
Je me sens bien, mon frère.
D'accord. Je vais te poser aussi une question sur Africville, en Nouvelle-Écosse. OK, on va à une petite pause musicale, et puis à tout à l'heure, Michael.
À plus tard.
À plus tard.
Yeah, that's the one. That's it.
Yeah, bunks and rungs. Je le fais pour la team, je le fais pour la team. Une fois pour la, je le fais pour la team. On redessine leur tableau comme Pablo, à la Picasso ou le gars de Medellin. On prie tous pour un sauveur. Où sont les Lévesque et les Dessalines? Time's up, sans mon sauveur. Mais les étoiles s'alignent, yeah, yeah. Oh na na na, on a tout donné, now we don't give up. Oh na na na, on va tout donner, so we do it one last time. Comme si demain n'a pas de lendemain. One last time. Comme si demain n'a pas de lendemain. One last night. Si le soleil s'éteint dans la nuit, on va briller. One last time. Comme si demain n'est pas un lendemain. One last time. One last time.
last night. Si le soleil s'éteint dans la nuit, on va briller. One last time. Comme si demain n'est pas un lendemain.
On vient d'écouter Impos avec la complicité de Marie-May, c'est sans lendemain. Michael.
Oui, allô.
Je me suis dit, il n'a pas raccroché.
Hein. Oh non, je pense pas.
Non, ça va, je suis là.
Alors, j'ai dit bravo beaucoup à la table ronde avec la complicité de l'Église Union pour concernant la muraille de Nelson Mandela, qui a été dévoilée d'ailleurs le 16 novembre 2020.
Tout à fait.
Très belle muraille. Alors, on va parler un peu des événements à ne pas manquer. La série TD, le coup de cœur, Bob Marley, collecte de sang. Ça, c'est très important, cette histoire de collecte de sang dans la communauté noire.
La collecte de sang, cette année, ça va être sur rendez-vous seulement.
Oui.
Alors, il faut que les gens appellent. Ben, alors, on comprend qu'on ne peut pas faire une collecte de sang habituelle.
Oui.
Alors, les gens sont invités à appeler. Sur le site, il y a les détails, naturellement. Sur le site www.histoiredesnoirs.com, je crois qu'il y a des détails pour Emma Québec, parce qu'ils sont toujours partenaires avec nous.
Oui.
Alors, tu sais que c'est un enjeu important. Vu justement, un des lauréats, c'est Wilson Sanon, celui qui a tant fait pour la cause de l'anémie falciforme.
Oui.
Qui touche souvent les enfants des communautés noires.
Oui.
Oui, c'est un enjeu important. Il y a ça d'un côté, puis à l'autre côté, c'est que souvent on donne peu et que c'est beaucoup plus compatible. C'est mieux de donner que le sang provienne d'une personne noire et une autre personne noire, c'est de bon augure. Alors, c'est ça. C'est qu'on donne pas assez, c'est qu'il faut qu'on fasse notre part. Pour toutes les raisons du monde, là, les gens ont peur des aiguilles, ils trossent pas ça, whatever. Mais reste que faut faire un effort pour sensibiliser, conscientiser la population noire,
oui.
Parce que si à redonner, parce que ça sauve des vies pour vrai.
Oui. Et concernant les conversations noires, ça parle de quoi là-bas? Pourquoi le titre là, les conversations noires?
Les conversations noires, c'est Black Conversations, ça fait 3 ans, je crois que ça existe. Finalement, c'est une journée, cette année, ce sera 4 dimanches après-midi qui vont porter sur la santé mentale. Mais il y a toujours un sujet d'actualité qui est mis de l'avant.
Oui.
Depuis 2 ans, c'est organisé par le groupe Never Was Average, un groupe de jeunes qui sont dans l'événementiel.
Ils sont déjà passés ici, ces deux jeunes gens-là.
C'est eux qui travaillent en collaboration avec nous. Et ça va être encore une fois en Zoom, alors ça va être les dimanches après-midi, sur une autre question très importante pour tout être humain, la santé mentale. On en parlait justement par rapport à l'impact, les effets de la pandémie, mais reste que chez les communautés noires, on parle même d'un certain traumatisme, syndrome. Post-traumatic slave syndrome. C'est le syndrome traumatique post-traumatique. Après les années d'esclaves, finalement c'est dans nous, on l'a encore, finalement les séquelles de ce qui s'est passé là, ou bien même le conditionnement dans lequel comment d'être assujetti et tout ça. C'est pour ça que parfois, en se connaissant mieux, on peut mieux connaître mieux pour répondre à certaines choses, pour essayer de rehausser notre qualité de compréhension de nous-mêmes, là, je dirais, pour pouvoir réellement être avec tout le monde, puis être, tu sais, en anglais, again, encore, excusez-moi l'anglicisme, level the playing, tu sais, pour égaler les chances pour tout le monde.
Oui.
Pour comme ramener certaines choses que ce soit dans le racisme systémique, que ce soit dans la question, comme on en parle maintenant, juste d'identité et de traumatisme, finalement, lié à ce bagage d'esclavage et de comment est-ce qu'on a été conditionné d'être un deuxième ou troisième citoyen. Alors, c'est de changer tout ça tranquillement.
Oui.
Et puis, c'est pour ça, entre autres, qu'on qu'on organise ces séances.
On va rester là en même temps parce que je t'avais souligné qu'on allait faire un petit voyage à Frickville, en Nouvelle-Écosse, parce que ce quartier de noirs, de loyalistes ou bien de réfugiés noirs qui étaient arrivés des États-Unis, un quartier qui était complètement, qui a été rasé complètement par la ville. Et cette ville, non loin d'Halifax, dans la banlieue. Et puis, quand on voit un peu la situation, là-bas, en 1954, qu'il y a eu des écoles mixtes. Quand j'ai vu cette histoire, ça m'a dit, waouh, c'est pas loin.
J'ai pas compris qu'il y avait des écoles mixtes.
À partir de 1954, à Halifax, en Nouvelle-Écosse.
Oui.
J'ai dit,
même chose au Nouveau-Brunswick.
Au Nouveau-Brunswick aussi.
C'est-à-dire que surtout dans les zones rurales, c'était encore très, très... c'était très connu que dans les zones rurales ou dans les plus petites villes, les écoles étaient séparées, les classes étaient séparées, etc.
Donc, ça ne s'est pas passé seulement aux États-Unis.
Non, pas du tout. Monsieur, il y en a qui, c'est comme de croire qu'il n'y a pas eu d'esclavage ici dans le Bas-Canada, ça sera totalement erroné.
Oui.
Mais des gens ne le savent pas, à moins qu'un... C'est pour ça aussi que ça sert la table ronde et le mois de l'histoire des Noirs, ça sert un peu pour aller s'informer puis de voir effectivement qu'il y a eu des sauvageries, il y a eu des trucs ici aussi. C'est qu'Afrique-Ville demeure... Afrique-Ville était réellement un petit bourg, comme tu le dis, là sur la rive, là réellement avec comme dans la baie d'Halifax. Et c'est un genre de village, mais qu'on a... typique du délaissement que les autorités en place font souvent avec les communautés noires, c'est-à-dire qu'on les délaisse, on les marginalise, ils sont au bout du village, puis ils dérangent personne, puis ils viennent pas en ville, puis ils s'organisent. Puis c'est que le village a monté, c'est qu'il y a même eu une église, là, c'est que on allait à la pêche là, on faisait plein de choses là. Il y avait, finalement, ils ont développé leur propre réseau de soutien qui leur permettait de survivre, puis même que les autres venaient acheter, parce que, comme souvent, ça devient des gens débrouillards. Hein. Quand tu as peu de choses, c'est pour ça qu'on regarde le nombre d'inventeurs chez les Noirs, ben, une des choses qui n'est pas compliquée à comprendre, c'est que quand tu as très peu, ben, tu veux faciliter ton travail, c'est que tu développes des façons pour faciliter ton travail, ou tu réfléchis à des nouvelles façons pour améliorer, pour que ça soit moins dur. Alors, c'est pour ça aussi que les Noirs ont beaucoup contribué. C'est qu'effectivement, le village d'Africville, à un moment donné, tout en étant très pauvre, je veux dire, il y a des rats, il y a tout ce que tu veux quand même, tu sais, je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'égout qui passe dans cette région-là, il n'y a pas rien. Ça fait, mais quand même, la dignité est là, les gens s'organisent, ils savent où est-ce que tout est, et puis finalement, la ville d'Halifax a commencé à servir pas loin, il y a eu un dépotoir, alors ça sentait nauséabond, et puis effectivement, là, dans les années 60, avec tous les renouveaux, nous autres, ça a été la révolution tranquille au Québec, mais je veux dire, chacun a connu certains renouveaux, tu sais, les années 60 sont arrivées, on voulait rebrander, un peu comme les années 80, puis un peu comme les années 2000, puis, etc. Alors, on dirait qu'à chaque 20 ans, faut se faire une petite beauté. Ben, c'est ça, est arrivé ça. Et puis là, ça dérangeait. À Frickville, on venait de, oh, pelaï, c'est quoi cette affaire-là? Ça suit plus, tu sais, t'essaies d'avancer ta ville, de moderniser ta ville, puis t'as cette affaire-là à côté qui a été délaissée, qui est retapée, tu comprends, qui peut passer au feu. C'est que là, ça devenait une gêne, puis ça devenait whatever, on veut plus ça. Mais au lieu de travailler avec la communauté pour trouver des solutions, oui, il y a eu beaucoup de conseils pour arriver à finalement... Mais quand même, on a fait ça de façon extrêmement, comment pourrais-je dire, éhontée et cavalière. Hein. Je veux dire, on est rentré, on a bulldozé. C'est-à-dire que du jour au lendemain, les gens se réveillent le lendemain, puis la bâtisse à côté n'était plus là.
Oui.
Tu sais, on avait rasé. Mm-hmm. Fait que on a été réellement « we bullied », comme on dit bulldozer, et they really bullied. Mm-hmm. Les gens, ils ont vraiment de l'intimidation, mais physique, là, on peut dire. Pas physique sur leur personne, mais physique. Ben, peut-être aussi, mais sur leur lieu, sur leur habitat.
Oui.
Alors, sous prétexte que... Puis après ça, on les a relocalisés ici et là. Ils ont réellement perdu le sens parce qu'il y a, tu sais, une communauté comme ça se tient. puis on les a relocalisés, je pense, c'est North Halifax, quelque chose comme ça.
Oui.
Et puis, avec beaucoup de séquelles, je veux dire, l'alcool, et c'est tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Le manque de travail, et tout ça. Fait que ça n'a pas aidé pour des gens qui se débrouillaient, qui n'étaient pas très instruits, mais mon Dieu, qui se débrouillaient. C'est qu'au lieu d'aller essayer de trouver le meilleur des deux mondes, non, il faut tout comme souvent on fait. Nous autres, je ne sais pas pourquoi que. Tu sais, en Europe, ils sont capables de garder j'appelle pas ça des vestiges, c'est des monuments de 400-500 ans en parfait état, puis nous autres, si quelque chose qui fait 100 ans, bang, on le met à terre. Je sais même pas.
Ça en est même une autre histoire en plus, c'est vrai. Moi, je suis française, je comprends ça. J'aurais une question, moi, sur les activités, sur les ateliers culturels et sur toutes ces affiches, entre autres, qui ont été faites au cours des années, qui étaient absolument magnifiques. Comment ça se passe dans les deux dernières minutes qui nous restent?
Ben les affiches, elles sont numérisées. Alors si tu veux appeler Carla à la table, tu peux les revoir. Je pense qu'on les a numérisées.
Carla, c'est la responsable des coordinations.
Oui, mais il y a des projets qui sont mis en route pour qu'il y ait des propositions sur les affiches. J'ai vu ça, non?
Pour qu'il y ait des propositions pour faire quoi avec les affiches? À chaque année, c'est une nouvelle affiche, on s'entend.
Il y a des ateliers différents quand même qui sont faits. Il y a des ateliers, voyais...
Oui, mais ça, c'est fait par chacun des organismes qui proposent une activité au courant du mois.
Okay.
Alors, ça peut être... maintenant, OK, je pensais que tu référais strictement à notre affiche.
Non, c'était pour tous les ateliers qui sont faits, y compris, parce que j'ai toujours admiré les affiches aussi, donc c'est pour
tout
ça que j'en parlais.
Tout à fait.
L'affiche de cette année, je l'adore. Une très belle affiche.
Oui. Je suis avec vous. Ça. Très chaleureuse, très... very inviting.
Oui, je dis merci et bravo à l'artiste qui s'est mis au travail, qui a fait cette belle affiche-là.
Ça fait réellement célébrons 30 ans.
Oui.
Ça fait réellement ça.
Alors, on est à la fin totalement de l'émission, de notre conversation. Ton prochain passage, Michael, si tu vas venir parler de ta carrière musicale.
Excuse-moi, par rapport à ma carrière musicale,
le prochain passage ici à l'émission.
La prochaine invitation.
Ah, mais oui, avec plaisir. Je viens de sortir un petit EP. Il est en ligne. Mm-hmm. C'est mon projet s'appelle Heart, Hand, Soul, comme une main, là. C'est ça le nom du groupe de ce projet.
Oui.
Et l'album que je viens de. J'ai fait un petit EP qui s'appelle We Know Who We Are. Alors,
merci
beaucoup. Ça me fera plaisir de vous le présenter. On aura peut-être l'occasion de présenter autre chose.
Merci beaucoup, Mike.
Merci alors. Au revoir.
On reste en contact. Oui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler un peu de ce 30e.
Ça m'a grand fait plaisir.
Bonne soirée.
Bonne fin de soirée.
Bye bye.
Au revoir.
Au revoir à tous, merci d'avoir été avec nous et à demain.
Oui.